Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 24 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
En République démocratique du Congo, la société civile demande à être consultée avant tout travaux du comité préparatoire du dialogue national.
Les États-Unis ont utilisé des hélicoptères d'attaque contre le groupe État islamique à Sirte, en Libye.
En Italie, un fort séisme de magnitude 6,2 a fait au moins 3 morts, selon les médias italiens.
Les forces spéciales irakiennes ont lancé hier une opération pour reprendre aux djihadistes Karyakra en prélude à la bataille de Mossoul. Aussi au programme, un reportage de notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall, sur place pour la présidentielle gabonaise du 25 août. Et ne manquez pas notre journal des Jeux Olympiques et la Minute Écho. Pour l'instant, le journal.
Dialogue national en RDC, la société civile exige donc d'être consultée avant tout travaux du comité préparatoire du dialogue. Des délégués de cette composante ont chahuté lors du démarrage de ces travaux hier à Kinshasa. Le point avec Eddy Isango.
La première réunion du comité préparatoire s'est tenue mardi en dépit du mot d'ordre pour la ville morte lancé par l'opposition qui récuse les facilitateurs Edem Kodjo. Un seul couac lors de cette réunion, la société civile a soulevé une motion qui a provoqué un chahut. Madame Cathy Kalanga, présidente et porte-parole de la branche appelée Société civile dans sa diversité, explique.
Le fait qu'on lui a refusé cette motion-là, c'est comme ça qu'il y a eu des réactions dans la salle. Nous étions surpris de voir que les facilitateurs nous a présenté une liste de la société. Nous ne savons pas, elle vient d'où. On a simplement demandé que les facilitateurs puissent consulter la composante société civile.
Ces groupes accusent M. Kodjo d'avoir unilatéralement choisi les délégués de la société civile. Des membres des partis politiques au pouvoir se retrouvent sur cette liste selon eux. Une bonne partie de l'opposition n'y prend pas part à ces travaux. Elle recuse les facilitateurs désignés par l'Union africaine, les Togolais Edem Kodjo, l'accusant de faire le jeu du président Kabila.
Merci Eddy Isango. Vous aurez rectifié de vous-même, j'ai dit dans les titres, que la présidentielle gabonaise est prévue le 25 août, bien entendu c'est le 27 août. Au Ghana, grâce présidentielle pour un présentateur radio et ses deux invités, ainsi en a décidé le président John Mahama. Les trois avaient été condamnés pour menace de mort à l'encontre des juges qui avaient ordonné la suppression de noms des listes électorales en vue des élections de décembre. Arzuma Compaoré.
Pardon présidentiel pour Salifou Massé alias Mugabe, un présentateur de radio controversé. Il avait été condamné en fin juillet avec deux de ses invités à 4 mois de prison et a payé une amende de 10 000 cédi, l'équivalent de 2 500 $, pour avoir insulté et menacé de tuer des juges à l'antenne. Selon le ministre de la Communication, Edouard Oman Abouama, la décision de supprimer leur peine fait suite à une requête qui lui a été remise par les commentateurs de la radio, implorant la grâce présidentielle. Pour la Cour, les accusés ont touché à l'intégrité du système judiciaire en ne respectant pas la décision des juges de supprimer des noms des listes électorales. Près de 56 000 noms d'électeurs ayant utilisé leur carte de sécurité sociale comme justificatif d'identité ont été rayés des listes électorales. Prévu pour le 7 décembre, les prochaines élections ghanéennes opposeront le président Mahama à Nana Akufo-Addo, candidat du principal parti d'opposition.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a félicité mardi à Sokoto l'armée nigériane pour sa lutte contre Boko Haram, soulignant qu'elle devait faire aussi preuve de retenue, mais sans évoquer le raid aérien qui aurait grièvement blessé le leader contesté du groupe islamiste Aboubakar Shekau. Pour sa troisième visite diplomatique au Nigeria en moins de 2 ans, M. Kerry s'est rendu tout d'abord dans l'extrême nord du pays, à Sokoto, où il a donc réitéré l'engagement des États-Unis aux côtés du géant de l'Afrique de l'Ouest, et ce, avant d'être reçu par le président Muhammadu Buhari à Abuja.
Les États-Unis ont utilisé des hélicoptères d'attaque contre le groupe État islamique à Sirte, en Libye. L'ancien fief des djihadistes est visé depuis mi-mai par une offensive des forces gouvernementales, Bagassi Koura.
Selon l'AFP, des avions américains prêtent assistance depuis début août aux troupes loyales au gouvernement d'Union nationale pour reprendre le contrôle de cette ville côtière située à 450 km à l'est de Tripoli. Ils ont mené des dizaines de frappes sur des positions et du matériel de l'EI. Selon le capitaine de corvette Anthony Falvo, porte-parole du commandement des forces américaines en Afrique, des hélicoptères Super Cobra des Marines ont rejoint les opérations ces derniers jours. Ces hélicoptères sont stationnés sur l'USS Wasp, un navire d'assaut amphibie qui croise en Méditerranée. Des avions à décollage vertical partent également de ce bâtiment pour mener des frappes sur Sirte. Les États-Unis avaient effectué 77 frappes aériennes sur la ville, selon un bilan arrêté à lundi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le séisme de magnitude 6,2 qui a frappé le centre de l'Italie tôt ce matin a fait au moins 3 morts selon les carabiniers et le maire d'un village touché par ce tremblement de terre cité par les médias italiens. 2 personnes ont été tuées dans l'effondrement de leur habitation à Pescara del Tronto. Il s'agirait d'un couple de personnes âgées selon ses sources. Interrogé par l'agence italienne AGI, le maire d'Acumoli, une commune située tout près de l'épicentre du séisme, a de son côté fait état d'un mort, décrivant une ville à moitié détruite. Selon lui, au moins 4 personnes sont encore prisonnières des décombres. Ici, c'est une tragédie. Nous avons des morts et des bâtiments détruits, a-t-il déclaré.
Les forces spéciales irakiennes ont lancé hier une opération pour reprendre aux djihadistes la ville de Kayara, une position clé en vue de la bataille de Mossoul, le bastion du groupe État islamique en Irak, selon des sources militaires. De son côté, l'ONU a averti qu'une offensive sur Mossoul pourrait provoquer le pire déplacement de population depuis des années. Les précisions de John Linden.
L'opération a débuté à l'aube avec la participation des services du contre-terrorisme et des forces armées, a déclaré à l'AFP le général Fira Bachar, porte-parole du commandement des opérations dans la province de Ninive, où se situent Kayara et Mossoul. L'offensive a également bénéficié du soutien de la coalition internationale sous commandement américain, a-t-il ajouté. Selon le maire de Kayara, Saleh al-Djoubouri, quelques 15 000 civils seraient pris au piège de l'État islamique dans la ville et ses alentours. M. Djoubouri a indiqué que les forces du contre-terrorisme progressaient rapidement dans Kayara et avaient déjà repris les principaux sites de la ville quelques heures seulement après le lancement de l'opération. Mardi, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a averti qu'une telle offensive pourrait provoquer le déplacement 1 million de personnes supplémentaires. Près de 3,4 millions de personnes ont été déplacées dans le pays depuis le début de 2014.
L'armée turque et les forces de la coalition internationale anti-djihadiste ont lancé une opération ce matin pour chasser le groupe État islamique de la ville syrienne de Jarablus, frontalière de la Turquie. C'est ce qu'a indiqué le bureau du Premier ministre turc dans un communiqué. Les forces armées turques et la coalition internationale ont lancé une opération militaire visant à nettoyer le district de Jarablus dans la province d'Alep de l'organisation terroriste Daesh, acronyme arabe de l'État islamique selon le communiqué.
L'extrême sud de la Thaïlande, en proie à une rébellion indépendantiste, a fait 1 mort et plus de 30 blessés hier soir, un attentat. Ce qu'a annoncé la police ce matin, près de 2 semaines après des attentats dans des stations balnéaires.
Le président Barack Obama est allé réconforter mardi les habitants de la Louisiane affectés par des inondations historiques survenues alors qu'il était en vacances. Monsieur Obama avait été critiqué pour n'avoir pas effectué ce déplacement plus tôt. Jean-Roger Bion.
Il suffit d'observer les rues, sans parler de l'intérieur des maisons ici. Les gens ont vu leur vie bouleversée par ces inondations, a déclaré le président américain en désignant les alentours lors d'une conférence de presse à Baton Rouge. Les pluies torrentielles de la mi-août ont fait au moins 13 morts en Louisiane. M. Obama a détaillé les aides apportées par le gouvernement fédéral d'un montant total de 127 millions de dollars et insisté sur la réactivité de l'exécutif. Je ne pourrais pas être plus fier de ce qu'a fait la FEMA, l'agence fédérale chargée des opérations de secours, a-t-il déclaré. Le président a assuré que sa visite ne se résumait pas à une séance photo et serait suivie de plusieurs mois d'aide après la crise. Le président s'était vu reprocher, notamment par le candidat républicain Donald Trump, de n'avoir pas coupé court à ses vacances pour venir en Louisiane. Mais le gouverneur démocrate de l'État, John Bel Edwards, a déclaré avoir demandé à M. Obama d'attendre un peu une visite présidentielle demandant de tels moyens de sécurité qu'elle aurait nécessité de réquisitionner des policiers encore occupés à aider les personnes sinistrées.
Au Brésil, la présidente suspendue, Dilma Rousseff, a appelé hier ses partisans à résister avec elle, deux jours avant que son procès en destitution n'entre dans sa dernière phase au Sénat. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Dans une circulaire consultée par Reuters hier, la Banque centrale du Nigeria presse les établissements de crédit d'allouer au minimum 60% de leurs achats de devises étrangères aux industriels du secteur manufacturier implanté au Nigeria qui en dépendent directement pour une partie de leur approvisionnement depuis l'étranger. Cela arrive deux mois après la mise en œuvre d'un taux de change fluctuant du Naira, rompant avec une politique de strict contrôle face au dollar et alors que le pays voit sa croissance ralentir et ses réserves en dollars diminuer. À New York, les cours du pétrole ont monté hier, portés par de nouvelles spéculations sur des actions concertées de grands producteurs pour stabiliser leur offre, ces rumeurs se concentrant cette fois sur l'Iran. Le cours du baril de light sweet crude a monté à $48 sur le contrat pour livraison en octobre, dont c'était le premier jour d'utilisation comme référence au New York Mercantile Exchange. Le Soudan et le Soudan du Sud se sont mis d'accord hier pour proroger un accord pétrolier, mais sans s'entendre dans l'immédiat sur ses termes financiers, selon des responsables. Lorsque le Soudan du Sud a fait sécession du Soudan en 2011, ce nouveau pays a accepté de payer à Khartoum une redevance pour l'utilisation de structures pétrolières et des pipelines du Soudan afin d'exporter son pétrole. En raison de la chute des prix de pétrole, le montant de la redevance payée par le Soudan du Sud a dépassé les revenus tirés des ventes de pétrole du pays.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonjour.
Bonjour Idrissa.
Coupe de la Confédération, on connaît désormais les quatre clubs qualifiés.
Oui, le MO Béjaïa s'est octroyé le dernier ticket pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération en battant Medeama 1-0 à domicile grâce à un but du Tchadien Morgan Betorangal. Le TP Mazembe termine premier de la poule après sa victoire face à Young Africans, 3-1. Dans le groupe B, qualification déjà connue du FUS Rabat et de l'Étoile du Sahel. Ce mercredi, un match sans enjeu entre le CAC Marrakech et Al-Ahli Tripoli.
Match de barrage retour de la Ligue des Champions ce mardi.
Hapoel Beersheva a battu Celtic Glasgow 2-0. Victoria Plains a égalisé avec Ludogorets 2-2. Monaco a battu Villarreal 1-0. AS Rome a perdu face à FC Porto 3-0. Legia Varsovie a égalisé avec Dundalk 1-1. On connaît donc les qualifiés, les Écossais de Celtic Glasgow, les Bulgares de Ludogorets, les Français de Monaco ou les Monégasques, comme on dit, le FC Porto, sans oublier les Polonais de Legia Varsovie.
Et ce mercredi,
le Manchester City de Pep Guardiola est quant à lui déjà pratiquement qualifié après son succès 5-0 en Roumanie contre le Steaua Bucarest. Le tirage au sort de la phase du groupe aura ensuite lieu jeudi à Monaco. Et l'affiche d'aujourd'hui, Idrissa, APL Nicosie joue contre Copenhague. FC Rostov joue contre Ajax Amsterdam. Salzbourg va jouer contre Dynamo Zagreb. Manchester City va croiser le fer contre Steaua Bucarest. Enfin, Borussia Mönchengladbach va jouer contre Young Boys Bern de Suisse.
Enfin, le Tour d'Espagne en cyclisme.
Oui, le Français Liliane Calmejan a remporté en costaud la quatrième étape du Tour d'Espagne, disputée sur 163,5 km entre Betanzos et San Andrés, doté Esquido Nord-Ouest devant le Colombien Darwin Atapuma, BMC, qui endosse le maillot rouge de leader. Et c'est tout pour les sports, Idrissa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Maintenant, nos dossiers du jour. Au Gabon, l'approche de l'élection présidentielle du 27 août sème un vent de panique parmi de nombreux travailleurs. C'est la fin du mois et beaucoup de Gabonais inquiets se demande ce qui va se passer avec la proclamation des résultats. C'est la ruée vers les banques pour percevoir son salaire et pour ceux qui sont à la Poste Banque de Libreville, c'est un véritable parcours du combattant, nous dit notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall.
Lorsqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mieux vaut récupérer son salaire à temps. Tous les matins, il y a de longues files d'attente à la Poste Banque à Kébé et devant la maison mère dans le centre-ville.
Je suis Monsieur Mombert Roger. Je perçois mon salaire à Poste Banque. Chaque fin du mois, on a des problèmes de ce genre. Donc, on n'arrive pas à percevoir les salaires dans les normes. Le salaire est bien reversé à part du trésor pour Poste Banque, mais ils ont du mal à payer les salariés.
Mais pourquoi ?
Je ne suis pas interne, donc je ne peux pas vous dire les problèmes de Poste Banque. Je viens percevoir mon salaire en tant que salarié.
Vous faites la queue depuis combien de temps ?
Je suis là depuis 6 heures.
Il est midi là.
Avant 16 heures, j'espère bien. Sinon, je vais repasser demain.
Demain, mais il y a les élections là, le 27.
Oui, mais justement, nous sommes là à cause des élections. On doit essayer de percevoir le salaire avant les élections.
Dans le quartier Akébé, un couple assis dans le rang fait même dans l'humour.
Mon époux n'aime pas quand je parle.
Monsieur l'époux, quels sont vos soucis ici qui fait que vous êtes assis ici depuis 6 heures du matin?
Je lui encaisse mon argent, je n'ai plus de soucis là où je suis. Je n'ai plus de soucis.
Vous avez déjà perçu votre salaire?
Je n'ai plus mon salaire. Bien avant les autres, je n'ai plus.
Et madame, vous?
Elle est fâchée, elle n'a pas encore pris.
Elle n'a pas encore pris son argent, elle est fâchée.
Elle est fâchée, elle n'a pas encore pris son argent, elle est là depuis 5 heures.
Comme les élections arrivent à grands pas, percevoir un salaire dûment gagné est devenu un casse-tête pour beaucoup de fonctionnaires.
Je m'appelle Fred, je suis fonctionnaire. L'État nous verse nos salaires, comme chaque fin du mois, normalement. Le problème, la banque est inefficace. La banque est vraiment endettée. Raison pour laquelle, au moment de payer nos salaires, il y a toujours des petits problèmes. Parfois, on repousse des jours. Parfois, on nous demande même de passer des semaines après.
Et on me dit aussi que si vous avez déposé 1 million là-bas, la banque ne vous permet plus de prendre votre argent comme vous le souhaitez.
Effectivement, du moment où on veut quitter la banque, mais il y a toujours des petits soucis. On ne peut pas vous les libérer. Il faut donner ceci, il faut donner cela. Si vous avez un compte d'épargne là-bas, vous ne pouvez pas tout récupérer intégralement. Sur 1 million, vous pouvez mettre 50 000, c'est inconcevable.
Même les militaires gabonais ne sont pas épargnés par cette galère.
Moi, c'est M. Kotoku Wilfried. Je suis militaire. Je suis lieutenant. En tout cas, ici, là, il y a plusieurs personnes et il y a beaucoup de gens qui changent même des comptes bancaires. Il y a les gens qui quittent de la Poste pour repartir à BGFI et à d'autres banques parce que ça ne va pas ici. Ici, là, les choses se font dans la tribuninose. Quand on arrive, on est obligé de faire les rangs. Même les rangs arrivent jusqu'à la route. Donc, ce ne sera pas possible qu'on puisse toujours rester dans la même banque. Et les ajours ne se font pas dans la norme. Les ajours se coupent bien avant qu'après les 3 mois. Pour laquelle on quitte vraiment dans cette situation des banques-là.
Depuis Libreville, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En République démocratique du Congo, la journée ville morte a été peu suivie hier dans la ville de Kinshasa. Hommes politiques de l'opposition et de la majorité présidentielle ont diversement apprécié cette journée. L'opposition congolaise tenait à protester ainsi contre la convocation du dialogue par le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo. Reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Joseph Olengankoy de l'opposition parle d'une sorte de référendum.
Vous savez, vous pouvez tromper une personne au dé, mais vous ne pouvez pas tromper tout un peuple. Nous nous vivons à live ce qui se passe dans le pays. Tout le pays était paralysé. Il y a l'ensemble de notre peuple qu'il faut féliciter. Il ne faut jamais décourager les efforts d'un peuple. Notre peuple vient d'être haché aujourd'hui. La ville morte pour nous, c'était un référendum. Ce sont des élections avant les élections. Le peuple vient de rejeter Kodjo comme facilitateur. Le peuple vient de rejeter ses gouvernements. Qui est incapable de protéger ses concitoyens. Et le peuple observe aussi et dit un message à Kabila que le 19 décembre, il n'a ni la légitimité ni la légalité de gouverner le pays. Pour nous, on avait besoin de cette légitimité pour poursuivre notre combat. Je tiens à leur dire, ils vont vivre dans les tout prochains jours comment on fait chasser un dictateur de manière pacifique et démocratique.
Selon un cadre de l'ASBL Kabila Désir de la majorité présidentielle, les temps des villes mortes des années 90 est révolu. Christian Mumpakani.
Ce matin, vers les petites heures de la journée, entre 6 et 7 heures, c'était assez timide parce que le Congolais habitué à vaquer à ses activités, aussi habitué qu'un groupe d'ennemis de la population se croit encore aux années 80-90 pour paralyser la situation, paralyser la circulation à travers la ville. Mais s'est-on aperçu qu'il n'y avait rien, que le temps était révolu. Ils sont tous sortis pour entourer la place de la gare pour assister au début des travaux du comité préparatoire au dialogue.
Donc vous pouvez affirmer que la ville a fonctionné normalement à 100%.
Kinshasa a vécu, Kinshasa vit et Kinshasa vivra toujours parce que Kinshasa est en train d'attendre le calendrier consensuel qui va donner lieu aux élections libres pour la troisième fois sous le règne du Joseph Kabila Kabange, le champion des Congo.
Steve Mulumba, travailleur dans un centre de santé, fait une différence entre les jours ordinaires et celui de ce mardi.
Il y a une très grande différence parce que la personne que je suis allé accompagner aujourd'hui à l'aéroport, j'étais allé le récupérer le samedi passé. J'ai dû traîner pendant au moins 49 minutes rien que sur Pascal à cause de cet embouteillage-là. Quitter la maison jusqu'à l'aéroport, j'ai dû faire 1h20 ou 1h30 comme ça. Mais à mon grand étonnement aujourd'hui, j'ai fait au moins 27 minutes pour y aller et je crois 24 pour y retourner.
Pour vous, la journée ville morte a été une réussite ou un échec?
Je vais même vous donner un exemple concret parce que je travaille ici à l'hôpital et aujourd'hui on n'a reçu personne. Tout ce que j'ai fait de ma journée, c'est tchatcher sur internet parce qu'il n'y a pas de malades. Je rentre comme je suis venu sans encaisser quelque chose, donc c'est une journée ville morte d'abord en commençant par moi-même.
Les activités ont été paralysées dans la capitale en début de la journée. Kinshasa, Cyril Milando de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Dans le nord du Cameroun, nouvelle initiative des autorités pour venir en aide aux familles de déplacés suite aux exactions du groupe terroriste nigérian Boko Haram. Le don de deux chèvres leur permet de se remettre sur pied. Reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, présenté par Claire Morin-Gibourg.
Boukaraba, un père de famille d'une quarantaine d'années, tire ses deux chèvres hors du petit enclos situé derrière sa maison à Mozogo, une ville située sur la frontière nord du Cameroun avec le Nigeria.
Sur le plan quotidien, on peut payer les frais de scolarité pour nos enfants, on peut aller à l'hôpital avec, on peut manger, ça pouvait nous remplacer le mille dans plusieurs domaines. On a plusieurs difficultés, telles que on n'a pas l'eau.
Boukaraba a reçu deux chèvres ce mois-ci dans le cadre d'une initiative de la Croix-Rouge française et du gouvernement du Cameroun. Moudjed Dieudonné travaille pour le responsable de la Croix-Rouge française qui pilote le projet.
L'activité consiste à donner à chaque ménage bénéficiaire un couple de chèvres et après un temps, dès que la chèvre a mis bas, on récupère les parents, on donne à un autre ménage jusqu'à atteindre les 510 ménages. Et ça va se faire dans les 15 mois que couvre le projet. À côté de ces activités, il y a une activité psychosociale qui consiste à appuyer 1020 groupes de personnes déplacées internes et de personnes autochtones sur des causeries par rapport aux violences qu'elles ont subies. Parce qu'on a constaté qu'on peut mettre à la disposition des populations la nourriture en qualité et en quantité suffisante, mais si les règles d'hygiène ne sont pas respectées, les populations vont continuer par être malades. Donc on est en train de développer une activité à partir des boîtes à images, des sensibilisations sur l'hygiène et la diversification alimentaire.
Environ 200 personnes ont reçu un couple de chèvres à ce jour. Boko Haram mène des attaques dans le nord du Cameroun depuis plus de 3 ans et le conflit frappe l'économie locale durement. L'Institut des statistiques camerounais indique que le taux de chômage à la frontière avec le Nigeria est de plus de 90%. Selon le gouvernement, la pauvreté rend les jeunes plus vulnérables au recrutement de Boko Haram. Beaucoup de jeunes ont abandonné l'élevage du bétail dans leur village à la suite des violences. Pour Moudjed Dieudonné de la Croix-Rouge, l'insécurité demeure une inquiétude.
Les équipes de projet sur le terrain ne puissent pas se mouvoir tranquillement, mais elles arrivent à s'adapter. Donc il y a une difficulté sur la stabilité des personnes qui se déplacent, donc des personnes déplacées en interne. Ces personnes sont toujours en mouvement. C'est-à-dire que même quand vous avez fini de les identifier dans une localité, vous revenez le lendemain, ils n'y sont plus en totalité. Ça fauche un peu dans la réalisation des activités. Parce que ces personnes sont toujours en train de rechercher les milieux favorables pour s'installer.
Il y a quelques mois, les Nations Unies, des ONG et les gouvernements du Cameroun et du Japon ont construit un marché de bétail dans le village de Zamaï, où les jeunes peuvent vendre les chèvres qu'ils élèvent. Le Cameroun a également débloqué un fonds d'urgence de 4 millions de dollars pour créer des emplois pour les jeunes dans sa région nord, frontalière avec le Nigeria.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump ne lâche pas prise dans la controverse autour de la Fondation Clinton. Son assurance tranche avec l'inquiétude des élus républicains faisant face à des réélections risquées cette année. Pendant ce temps, les candidats des partis de moindre envergure font tout pour émerger sur la scène politique. Nous faisons le point avec Timothée Donangmaï.
Dans l'espoir de réduire l'intensité des attaques des républicains, le camp de la candidate démocrate Hillary Clinton a annoncé qu'au cas où elle serait élue à la Maison-Blanche, la fondation Clinton, qu'elle a créée avec son époux, cesserait d'accepter des dons de sources étrangères et de la part des entreprises. Ce n'est pas suffisant, estime l'équipe de campagne de Donald Trump, qui qualifie de ridicule cette tentative de la fondation familiale d'Hillary Clinton de résoudre ses problèmes de conflit d'intérêts. Elle n'inclut pas l'initiative Clinton pour l'accès aux soins de santé, fait remarquer Jason Miller, porte-parole de l'équipe de Trump. Donald Trump lui-même demande qu'un procureur spécial soit nommé pour enquêter au sujet de la fondation Clinton.
Si le candidat Donald Trump est optimiste quant à ses chances de gagner la course à la Maison-Blanche, certains républicains commencent à calculer l'impact de son éventuel échec, Tim.
À 11 semaines de la présidentielle de novembre, les candidats républicains au Sénat se préparent au pire. Selon Associated Press, la plupart des stratèges républicains pensent que la victoire d'Hillary Clinton est aussi certaine que la défaite de Donald Trump. Ils estiment que les républicains candidats à la réélection au Sénat en novembre devront remporter entre 5 et 10% de voix de plus que Donald Trump pour pouvoir s'imposer dans des États comme la Pennsylvanie, l'Ohio, le New Hampshire ou encore la Floride. D'aucuns pensent que les sénateurs républicains de l'Illinois et de Wisconsin ont peu de chances de conserver leur siège. Face à cette situation, les élus républicains mettent l'accent dans leur campagne sur les réalisations au niveau de leurs États. Les démocrates, eux, tentent de les lier à Donald Trump.
Comme les années passées, les campagnes électorales démocrates et républicaines éclipsent celles des autres candidats qui tentent de se faire une place au soleil, Timothée.
C'est le cas de Jill Stein, la candidate du Parti des Verts. Cette dernière se dit certaine de remporter la présidentielle de novembre si seulement elle bénéficiait d'une plus grande visibilité. Lors d'une conférence de presse mardi, ici à Washington, elle a plaidé pour son inclusion dans le débat entre les candidats à la Maison-Blanche. Toutefois, selon les critères de la commission des débats présidentiels, il faut bénéficier du soutien d'au moins 15 % des électeurs pour prendre part aux trois débats prévus pour la présidentielle de novembre. Pour l'heure, Jill Stein ne recueille qu'un taux d'intention de vote à un chiffre, moins que le candidat du Parti libertarien Gary Johnson, qui lui-même a peu de chances d'affronter Hillary Clinton et Donald Trump dans un débat cette année.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale, merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.